Alors, Madame Niva est une journaliste qui travaille pour les médias, mais c'est aussi une auteure. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont le premier. Est-ce que c'est le premier
Chien
Chien
de
de
guerre, le
guerre,
premier.
publié en 2000 sur la Tchétchénie, lui a valu le prix Albert Londres du nom du célèbre grand reporter. Que dire d'autre? Dans ce qu'on dit d'elle sur Internet, dans l'une des nombreuses biographies, je ne sais pas laquelle est la bonne, mais on dit qu'elle revendique la lenteur et la complexité.
Oui, ça c'est moi qui le dis, pour une fois.
Bon,
Ça
ben alors c'est à vous.
Merci. Merci Florian. Vous avez d'ailleurs débuté ce colloque ce matin en posant la question de l'indépendance du journal ou l'indépendance du journaliste, finalement, laquelle est la plus importante. Moi, j'ai répondu à cette question assez rapidement dans mon évolution dans ce métier, dans ma carrière qui a débuté il y a à peu près 10 ans, qui est justement de dire qu'il fallait que je sois moi-même indépendante, premièrement, pour pouvoir continuer à proposer mes articles aux journaux, parce que je me suis rendu compte que si j'attendais que les journaux deviennent eux-mêmes indépendants, j'attendrais longtemps. Donc, en fait, je me suis moi-même sortie, exclue du système médiatique, après avoir beaucoup voulu y rentrer. J'avais très envie, il y a 10-12 ans, de devenir ce que je suis devenue, un bref moment d'ailleurs, mais de devenir correspondante à Moscou, c'est-à-dire d'être salariée d'un grand journal français, et d'avoir cette place. Et puis, en fait, dès que je l'ai obtenue, je n'avais plus qu'une envie, c'était ne plus l'avoir. Reprendre mon indépendance, ma liberté de mouvement. Bon, il s'agit pas, c'est pas que j'étais mal à Libération, dans le sens où il y avait une quelconque censure de mes écrits ou quoi que ce soit. Bien sûr, non, pas du tout. Il y a tout simplement qu'en fait, moi j'ai tout fait à l'envers, hein, dans ma carrière. Donc j'avais commencé par une guerre, par couvrir une guerre, une sale guerre, une guerre qui a été très peu médiatisée, qui est la guerre en Tchétchénie. C'était il y a 10 ans, en 1999. 1999-2000, et je l'avais couverte pour Libération, mais en fait, je n'étais pas salarié de Libération à l'époque. J'étais vraiment pigiste. Mais les lecteurs de Libération qui réagissaient à mes articles après leur publication en France, par lettre, par courrier au journal, pensaient tous que j'étais salarié de la rédaction. Et en fait, la rédaction, c'est après qu'elle m'a engagée. Et j'étais fort heureuse à ce moment-là. Et puis, comme je vous le dis, j'ai assez rapidement repris ma liberté, pour plusieurs raisons, et également parce que la crise commençait dans le journalisme, et à Libération, ils étaient assez fortement touchés par la baisse des revenus publicitaires, etc. Et j'étais une des dernières rentrées dans le journal, donc évidemment une des premières à potentiellement partir. Et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que je crois donc que je n'aurais jamais pu faire ce que je continue à faire jusqu'à maintenant, si j'étais restée salariée d'un journal en France. Donc moi, je suis correspondante de guerre, reporter de guerre. C'est-à-dire que c'est quand même un sous-ensemble assez restreint dans la catégorie des grands reporters. Et en fait, au fil des années, je me suis rendu compte à quel point il devenait de plus en plus difficile de pratiquer ce métier en toute indépendance, même quand on est comme moi, c'est-à-dire pas salarié d'un journal, même en tant que pigiste. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut finalement sans cesse lutter. Je travaille donc ponctuellement pour l'hebdomadaire français Le Point. Je leur propose mes grands reportages, qui sont toujours dans les mêmes pays, hein. Moi, je ne suis pas très originale, finalement. Je retourne toujours aux mêmes endroits que j'aime, qui sont l'Afghanistan, l'Irak, la Tchétchénie. C'est donc 3 grands conflits sur lesquels on a beaucoup écrit, vous avez beaucoup lu, on en a beaucoup entendu parler. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, et Edwige Plenel disait tout à l'heure, le public, on se retourne, il n'est plus là. Oui, effectivement, je crois que dans les dernières années, beaucoup d'éditeurs de journaux l'ont oublié, ça, l'existence du public. C'est pour qui écrit-on ? Qui consomme l'information ? Quelle est notre raison d'être ? Moi, personnellement, quelle est la mienne ? Pourquoi je vais risquer ma vie dans les pays dont je vous parle, si ce n'est pour le public ? Pour partager avec ce public ce que j'ai moi-même été chercher. C'est donc capital. Moi, je l'ai toujours présent à l'esprit, le public. Et ce public, je me suis rendu compte qu'il était de plus en plus méfiant vis-à-vis de nous, les journalistes, dans les dernières années. Nous sommes délégitimisés, nous nous sommes décrédibilisés, parce que, oui, c'est certain, pour de nombreuses raisons, et de par le fonctionnement même de ce système médiatique, l'information est devenue parfois presque aboutie à de la désinformation, voire à de la communication, c'est encore pire. La communication, pour moi, qui suis journaliste, c'est quelque chose, évidemment, à bannir. Alors, l'exemple qui est le plus dans mon domaine, c'est celui de ce qui se passe de plus en plus fréquemment aujourd'hui, quand on a la responsabilité de couvrir des grands conflits, dans lesquels les États-Unis sont impliqués, la France est impliquée en Afghanistan, le Canada en Afghanistan également, qui est que les États font des commentaires sur le fait si le journaliste doit partir couvrir ce conflit ou pas. Et beaucoup de journalistes, sous la pression de leur rédaction, n'y vont pas, où ils vont dans des conditions qui, selon moi, ne permettent pas une couverture indépendante des événements en question, mais surtout une couverture, je dirais, riche, nuancée, détaillée, concrète, réelle, de ces situations qui sont forcément très complexes. Partir... Alors, les gouvernements ont trouvé la solution, qui est de dire, oui, il faut que les journalistes soient embedded, soient embarqués avec les armées. Alors, c'est une solution, effectivement, mais je n'ai rien contre, sauf quand on la propose, voire quand on l'impose, comme la seule solution. Ça n'est bien sûr pas la seule solution. Nous sommes nourris du flux permanent, justement, des télévisions non-stop, de ce robinet, oui, permanent de l'information, qui, en fait, ne nous apporte que cette écume, que cette surface extrêmement formatée, qui, finalement, n'a plus rien de véritablement humain ni intéressant. Moi-même, je me suis rendu compte, après les années passées en Irak depuis 2003, j'y vais quand même beaucoup, que, évidemment, les guerres, ça lasse. Ça lasse, c'est difficile à couvrir quand ces guerres s'installent. C'est ce dont j'ai parlé dans mon dernier livre, Bagdad, zone rouge. Comment fait-on quand on est dans la guerre, quand on est à Bagdad, dans une famille, comme c'était mon cas, parce que je vis toujours au plus près, au plus proche, donc chez les gens, je ne me coupe pas de la réalité, et que dans ces familles, finalement, je me dis, je ne peux plus sortir parce qu'il y a trop d'insécurité, je ne peux plus, sur quoi vais-je écrire ? Qu'est-ce qu'il reste à écrire ? Est-ce que je n'ai pas déjà écrit sur tout ? Quand il y a cet enfermement, ce huis clos, cette pesanteur qu'est la guerre. C'est souvent ça la guerre, c'est de l'attente, beaucoup. L'attente, c'est difficile à filmer. C'est difficile à raconter aussi avec des mots. Et puis je me suis dit, eh bien c'est peut-être là-dessus qu'il faut écrire. C'est justement sur ces moments-là de la guerre qui sont peut-être pas les plus médiatiques, pour toujours dans le même but, qui est celui de se rapprocher de la réalité, de la vérité. Moi, je revendique donc la lenteur, comme Florian l'a rappelé, c'est-à-dire que je reviens sempiternellement sur les mêmes théâtres d'opération, et je me dis aussi que il faut, c'est justement en essayant de se rapprocher de la complexité des choses, même si on admet soi-même qu'on ne peut pas être objectif, qu'on apporte une réelle information. Donc je ne crois pas à l'objectivité dans le journalisme. Je ne crois pas que parce que dans un même article bien ficelé, on écrit dans un paragraphe, on donne la parole dans un paragraphe à un haut gradé de l'armée américaine sur ce qui se passe en Irak, par exemple, et que dans le paragraphe suivant, on donne la parole à un djihadiste qui combat cette même armée. Je ne crois pas que pour cette raison-là, on a un article objectif. Et je crois tout simplement que pour que nous, journalistes, redevenions crédibles auprès du public, il faut que nous soyons capables de, bien sûr, nous remettre en question, d'accepter les blogueurs, les autres témoignages, ça c'est certain, mais il faut être capable également de dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on n'a pas réponse à tout, on n'a pas d'explication sur tout. Et on fait ce qu'on peut, et ce qu'on peut dans mon domaine, qui est le grand reportage, le terrain, c'est aller chercher des histoires. Tout simplement, aller les chercher sur le terrain. Il n'y a que le terrain qui compte dans le grand reportage. C'est-à-dire que quand de nombreuses voix s'élèvent, en France comme ailleurs, mais je pense au pays d'où je viens, parce que la situation est quand même assez catastrophique de ce point de vue-là, on entend dire qu'il ne faut plus aller sur le terrain, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est trop dangereux. Eh bien là, les bras m'en tombent. Comment un grand reporter de guerre, peut-il accepter ne plus aller sur le terrain ? Comment peut-on prétendre couvrir une guerre si on n'y est pas ? Et bien sûr, je sais ce qu'on va me rétorquer, oui, le danger du kidnapping, etc. Donc en France, aujourd'hui, nous avons deux journalistes qui ont été kidnappés en Afghanistan à la fin du mois de décembre 2009. Et cela donne lieu à pas mal de débats et surtout une attitude de la part du gouvernement français qui est, selon moi, extrêmement gênante. Et qui est surtout la preuve du plus grand mépris de la part de ceux qui nous gouvernent en France et du président de la République lui-même vis-à-vis des journalistes. Puisque, alors que ce même gouvernement, l'État français, ne cesse de nous dire qu'il ne faut pas médiatiser cette affaire d'otage, que c'est la famille elle-même qui l'a demandé, que par respect pour la famille, etc., en fait, c'est de même que viennent les fuites et les citations de plus en plus navrantes sur ce kidnapping, la plus récente étant la déclaration du chef d'état-major des armées, un général, qui a expliqué que l'opération pour retrouver ces otages qui n'ont toujours pas été retrouvés avait déjà coûté 10 millions d'euros et que c'était quand même de la part de ces deux journalistes le preuve d'une irresponsabilité totale. Alors, évidemment, des propos comme ceux-là ne peuvent pas ne pas être médiatisés, quand même, de la part de nous autres journalistes, qui faisons tout ce que nous pouvons pour nous taire sur le kidnapping lui-même. Et cela pose quand même d'énormes problèmes qui montrent que la situation de la proximité entre journalistes et pouvoir en France, c'est un problème qui n'est pas nouveau, mais continue à poser un problème et que c'est souvent utilisé à nos dépens. Et que je me dis, au final, dans le but de presque nous empêcher d'aller faire notre métier, c'est-à-dire d'y aller sur le terrain. Moi, je continuerai à y aller, même si on me dit que j'avais reçu assez récemment une lettre de la part du Quai d'Orsay. Donc, vous voyez, même les journalistes indépendants y ont droit. Enfin, le journal pour lequel j'écrivais avait reçu cette lettre. Je devais aller en Irak et c'était... Donc, pour aller en Irak, il faut demander un visa à l'ambassade d'Irak en France. qui le donne d'ailleurs assez facilement. Et le Quai d'Orsay en avait été informé et m'avait envoyé une lettre en disant « Mais alors, nous avons appris que la journaliste Anniva, que vous avez embauchée pour cet article, a l'intention d'aller en Irak. Est-ce que vous savez que c'est quand même extrêmement dangereux, l'Irak ? Est-ce que vous vous rendez bien compte ?» Bon, je ne ferai pas de commentaires sur ce genre de contenu, mais ce qui est grave, c'est que on a ceux qui propagent ce genre d'attitude n'ont pas l'air de se rendre compte que si nous, journalistes, reporters de guerre, nous n'y allons plus sur le terrain, nous sommes déjà assez peu nombreux à y aller finalement, mais si nous n'y allons plus, que va-t-il se passer ? Eh bien, tout simplement, la nature ayant horreur du vide, notre information sera immédiatement remplacée par de la communication des services de presse, des armées qui sont sur place et qui se feront un plaisir, avec le plus grand professionnalisme, de nourrir, ils le font déjà, de nourrir en information, en ce qu'ils appellent de l'information, les journalistes qui la relayeront. Et alors que nous avons déjà, à mon avis, une vision assez peu ouverte de ces conflits en Irak, en Afghanistan et ailleurs, et bien là, nous n'aurons véritablement plus que un angle, une vision des choses. Et ça, je crois que c'est extrêmement dommageable, et il ne faut pas s'étonner ensuite que justement le public nous ait un petit peu délaissé, parce que c'est à nous, journalistes, de nous insurger contre ces pratiques. C'est à nous de ne pas avoir peur de dire non, de dire on peut quand même y aller, on peut quand même le faire, de ne pas nous contenter de reprendre telle ou telle dépêche. Je ne dis pas que les dépêches sont mauvaises. Elles sont au cœur de la production journalistique. Mais elles sont souvent insuffisantes. C'est-à-dire que moi, je ne voudrais pas qu'on dise oui, en Irak, en Afghanistan, finalement, il n'y avait pas de possibilité de savoir quelle était la réalité des choses là-bas. C'est faux. Il y a toujours une possibilité d'y aller et de faire son métier quand on a choisi de le faire de façon, finalement, moi je n'ai rien inventé, de façon extrêmement classique, qui est de me fier uniquement à ce que j'ai vu. Edwy Plenel disait tout à l'heure, j'ai vu, je raconte. Oui, oui, j'ai vu, je raconte. J'ai vu parce que j'y suis allée. Je n'ai rien inventé. Comment pourrais-je inventer ces scènes, ces situations ? Je ne suis pas romancière. Sinon, c'est un autre métier. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'y aller. Je suis tranquillement derrière mon écran d'ordinateur et j'invente. Le reportage de guerre ou pas de guerre, de proximité, le cœur de ce métier, de ce beau métier de journaliste, nous sommes tous des intermédiaires, nous sommes tous des ponts, nous sommes tous des éponges, c'est le récit. Et le récit, ça ne s'invente pas. Voilà. Je vous remercie.
Merci.